au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Je ne veux pas ici être alarmiste, mais les sources d'informations qui nous parviennent me semblent être des questions tout à fait plausibles pour lesquelles on devrait avoir des réponses du ministère de la Santé. Mais on est toujours, évidemment, dans la réponse suivante, nous ne sommes pas disponibles, nous ne sommes pas disponibles. Tout le monde a le droit des vacances, j'en conviens, mais je ne pense pas que dans une société où une pandémie est comme ça et qu'on a des records peu enviables, je pense, dans le contrôle historique là, depuis le début de cette pandémie-là, que l'on puisse ne pas être présent pour répondre à des questions ou des inquiétudes. Sans être alarmiste, je fais un petit rappel avant d'aller voir notre invité qui, lui, semble tenir le fort, le docteur Poirier, qui est le directeur de la santé publique en Estrie. Mais étant donné que ces gens-là ne travaillent pas en silo, il va être capable de nous informer sur un plan un peu plus large. Écoutez, il y a une éclosion à l'hôpital de Saint-Eustache. L'établissement compte 25 patients et employés infectés dans 3 des 13 unités d'hospitalisation. C'est une première affaire. Camp de jour de Boucherville, où on a appris cette semaine qu'il y avait 27 enfants et membres du personnel du camp de jour Chaloux-Lescargot de Boucherville qui ont été déclarés positifs à la COVID-19. Et on apprend aujourd'hui que 19 de leurs proches, parents, cousins, je ne sais quoi, ont également été testés positifs. À Sherbrooke, on va y venir tantôt, il y a eu une augmentation de certains cas de COVID dans un camp de jour. 2 animatrices qui ont été testées positives, ce qui fait une 30aine de jeunes qui sont en isolement préventif. Ils ne sont pas contaminés, mais ils sont en isolement préventif. Des plages et piscines ont dû être fermées en raison de d'autres situations. À Saint-Jean-Port-Joli, au moins 8 employés d'une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli ont contracté la COVID et je pourrais aller plus loin dans le temps et dire que Saint-Jérôme, à l'hôpital, il y avait eu une éclosion également. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Des spécialistes nous disent qu'il va avoir une deuxième vague, mais qu'on sera en mesure de contrôler et elle serait moins grave et moins importante que cela. Le docteur Alain Poirier est avec nous, directeur de la santé publique en Estrie. Bonjour, docteur Poirier, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Docteur Poirier, on va-tu avoir une deuxième vague ou si on n'en aura pas?
Je dirais même qu'elle est déjà un peu là. Ça serait assez étonnant qu'on n'en ait pas. On sait qu'à peine, c'est beaucoup, mais 60 000 Québécois ont fait la maladie. Et sur 8 millions, c'est à peine 1-2% des Québécois qui l'ont fait. Donc, tout le reste, nous sommes, j'allais dire, disponibles, comme vous auriez voulu que le ministère le soit. Nous sommes disponibles pour ce virus. Alors, donc, oui, il y aura d'autres cas. On a réussi à aplatir, mais tout ça au prix de tout fermer. Maintenant que tout réouvre, il ne faut pas que ça réouvre de la même façon, mais on voit bien que le virus se transmet. Dans toutes les histoires que vous avez, les événements que vous avez racontés au début, il y en a pas mal qui concernent les jeunes. Évidemment, les jeunes ont été complètement... ils étaient là, en passant. La fréquence de leur cas était là, était même plus élevée qu'en ce moment. Quand on regarde, nous, les courbes de tous les groupes d'âge pendant les 4-5 derniers mois, la nuance, c'est que, et heureusement pour les aînés, c'est qu'il y en avait chez les aînés qui avaient des conséquences très sérieuses. C'est de ça dont on parlait. Mais quand on regarde les courbes par âge, les jeunes ont toujours été là, même s'il y avait un bon confinement, plus d'école. Évidemment, il n'y avait pas de job d'été, pas de bar, pas de sport. Tout ce qu'ils font, quand je dis les jeunes, mettons, en bas de 30 ans, ça nous exclut. Mais bref, tout ça ne bougeait pas. À partir du moment où ça réouvre tout ça, ben c'est chez eux qu'on en trouve. Alors, ces jeunes-là, ils travaillent dans des camps de jour, etc. Ce qui est plus inquiétant dans tout ce que vous avez dit, c'est quand il y a des éclosions en milieu hospitalier. On en a eu déjà.
Oui.
On en avait en Estrie, même on en a eu une aussi. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est là que sont nos malades COVID. Deuxièmement, on ne peut pas travailler avec une pôle de 6 pieds avec des malades. On est proche. Et quand on est malade du COVID, on excrète plus de virus. Donc, on est encore plus à risque pour les gens autour de nous. Fait que pour toutes ces raisons-là, il faut que les travailleurs de la santé se protègent encore mieux que les gens à l'épicerie. Donc, mais ça n'exclut pas qu'à l'occasion, il y a comme ce qu'on voit, comme ce qu'ils vivent actuellement à Saint-Eustache, Saint-Jérôme. Fait qu'eux autres, c'est très préoccupant. Surtout s'ils étaient certains qui étaient déjà hospitalisés pour une autre maladie ou pour un autre problème, ben, de rajouter la COVID, c'est vraiment pas une bonne idée. Ben, c'est pas une idée, mais je veux dire, c'est beaucoup plus à risque. Fait que ceux-là, dans tout ce que vous avez nommé, ceux-là sont plus inquiétants.
Nous autres, Dr Poirier, on se connaît parce que je viens de l'Estrie, puis on s'est déjà jasé pas mal dans le passé. Alors, vous allez m'aider au niveau du Québec. Quand on annonce 181 nouveaux cas, est-ce qu'on est dans une remontée des cas ou si c'est parce qu'on teste plus, point final, et que la courbe continue d'être assez basse?
Quand on regarde la courbe pour tout le Québec, oui, il y a une légère remontée. Mettons que si d'imaginer la fameuse montée, on l'a vu un peu partout, l'Estrie, c'est pas beaucoup de cas, mais si on prend tout le Québec, oui, il y a une légère remontée. Très petite, c'est pas même pas le huitième, je dirais, de ce qu'on a vu avant. Et cette remontée-là, comme je le disais, quand on regarde les groupes d'âge, si on compare les courbes par groupe d'âge, c'est chez les plus jeunes. C'est là qu'on les voit. Les autres, non, il n'y a pas de remontée chez les 60 et plus, 70 et 80, ceux qui nous ont tant préoccupés au printemps. Donc, ça, c'est malgré tout une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on le comprend avec ce que j'expliquais des comportements. Ouais, ouais. Mm-hmm. Et le souci aussi, c'est que le Cégep Université va ouvrir bientôt. On espère que Cégep Université, c'est mieux que, j'allais dire, en termes de sérieux pour encadrer la protection. Ben, qu'un bar, ou même si les bars n'ont pas tous été mal commodes.
Non, je comprends.
La majorité, il y a des milliers de bars, puis il y a des histoires dans 3-4. Je ne vais pas les clous au pilori non plus.
Non.
Mais bref, Cégep Université, c'est des organisations structurées. Il y a beaucoup de ça. Un bar, tu ne le fais pas à distance, mais Cégep Université, il y en a pas mal qui font de l'enseignement à distance. Pas tout le temps. Il y a des formations qui ne s'y prêtent pas, puis il y a des gens qui veulent faire du travail.
En début d'émission, oui. Je parlais du domaine scolaire, justement, du retour à l'école pour le primaire, pour le secondaire, pour le cégep, pour l'université. Laissons le cégep et l'université, bien que ce soit des groupes d'âge contenus dans la remontée des cas que l'on connaît là, statistiquement, oui. Mais on apprend que des jeunes auraient une charge, ça vient de sortir, là, une charge virale plus importante qu'initialement cru. Ces jeunes-là peuvent être contaminants, être un vecteur important. Comment est-ce qu'on gère le retour à l'école? Parce que le protocole de juin mis par les commissions, par le ministère de l'Éducation, ne correspond plus à la réalité de août et de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire?
Bien, je pense, moi, on a ouvert, nous, en Estrie, là, parmi les premiers, on est loin de l'épicentre de Montréal, donc on a ouvert, j'ai visité, j'ai vu des écoles, j'ai vu que les gens faisaient ça vraiment très, très sérieusement. Mieux que je pouvais anticiper. Ils ont vraiment, les professeurs, les directions d'école, j'allais visiter les garderies aussi quand ça a réouvert. Et puis, c'est assez impressionnant la façon dont ils réussissent à travailler avec les jeunes. C'est un lieu d'éducation. C'est un lieu où ils sont capables de travailler avec les jeunes. La question, on était beaucoup posé quand on a préparé la
rentrée.
L'arrivée de la pandémie. Mmh. Même la préparation du H1N1, on savait pas que ce serait l'H1N1, mais on se préparait pour la pandémie dans les années 2000. Et puis la question de l'école, je me rappelle que la discussion entre les ministères et autres, j'étais au ministère de la Santé à l'époque, c'était vraiment, on a là une armée d'éducateurs qui sont d'habitude travailler avec les enfants. Et c'est ce qu'on a vu là, il y a quelques mois, avec le coronavirus. C'est que le primaire, ça va bien. Bon, le secondaire, là, on a une expérience à faire. Est-ce qu'ils auront la même capacité? Parce qu'il faut quand même garder les enfants à une certaine distance. Est-ce qu'il va avoir la place? Il y a le transport scolaire qui pose des difficultés. Il y a un défi. Là, on doit, mais quand même, on peut aussi faire à distance à l'occasion du télé-enseignement. Donc, le secondaire, là, on va vraiment expérimenter, là, en septembre. Puis, cégep, université, bon, c'est le groupe d'âge qui actuellement a des infections, mais je pense qu'on est très bien capable aussi. On peut avoir assez de maturité à ce moment-là en maths. Ouais,
j'espère. Moins qu'il y ait des initiations comme on a connu dans le passé, ça c'est moins
bon. Ça, je sais que ça a été discuté avec le ministère de l'Éducation et les universités. Puis les universités, ils ne traitent pas non plus ces initiations en temps régulier.
Ouais.
Je pense que cette fois-ci, la demande, ça a été autant que faire se peut avec des groupes étudiants. On n'en veut pas.
Dites-moi, Alain Poirier, quand on va sur la place publique. Votre job, c'est directeur de la santé publique dans une région, c'est l'Estrie, mais vous étiez au ministère de la Santé. Quand on sort publiquement et qu'on dit, le chiffre que vous venez de me donner, là tu dis, comment j'organise ce chiffre-là? 60 000 cas sur 8 millions d'habitants, c'est presque pas comptable, c'est pas beaucoup. En même temps, le message, il faut faire attention puis continuer d'être de distanciation, continuer de vous laver les mains, porter le masque, etc., etc. Mais pour d'autres, c'est un argument qui dit, écoute, il n'y a rien là, on est 8 millions puis il y en a 60 000 seulement au Québec. Ça n'existe pas, c'est pas comptable. Comment on est dans sa tête pour livrer le message?
Bien, il faut savoir que pour tout le monde, pour les médias, mais pour les gens, là, les chiffres comme ça, c'est pas... Vous avez raison, c'est difficile à dire. Si je vous disais, j'avais une chance aujourd'hui, une chance sur 1 million de gagner la loto, ça vous prend combien d'années avant de la gagner, si vous avez une chance par jour? Vous n'êtes pas capable de le dire vite. Quand on arrive dans les millions, c'est des trop gros chiffres. Il faut comparer ça à des données que les gens peuvent comprendre. Par exemple, si on dit, ah, c'est moins que 1% de la population. Ah, ben ça, on comprend. C'est tout petit. Mais la contrepartie, c'est qu'à 99%, même s'il y en a quelques-uns des asymptomatiques qu'on n'a pas comptés, les mesures de séroprévalence qu'on va avoir dans quelques jours vont nous dire peut-être qu'on multiplie par 3, 4, 5, mais on est en bas de 1%. Ça fait que de toute façon, il y a plus que 95% des Québécois qui ne l'ont pas fait. Alors, la pandémie n'est pas derrière nous. La première vague est derrière nous, mais la pandémie n'est pas derrière nous et on n'a toujours pas de vaccin, on n'a pas d'antivirus solide. Il y a des études, on espère que ça va sortir positivement, ces études, tant pour les médicaments que pour la prévention avec un vaccin. C'est sûr, moi je suis un gars de santé publique et j'y crois au vaccin parce qu'il fonctionne, mais on n'en a pas encore pour ce virus-là. Alors donc, c'est un tout petit chiffre. La contrepartie, c'est que la majorité de nous, ben on est susceptible de la faire. Puis l'autre chose que les... Pour parler aux gens, là, comme vous le faites vous tout le temps, il faut des anecdotes, il faut des histoires, il faut entendre, être sensibilisé par des jeunes et autres. Et puis parce que des chiffres, c'est tannant, ça finit par être plate, puis les gens n'y croient plus. Mais quand un témoignage d'un jeune, nous, on en a eu en Estrie des jeunes et des jeunes collègues, moins de 30 ans, qu'on a vu dans les médias récemment, qui gardent des séquelles. Ça fait 3 mois, nous, on a eu une éclosion à l'intérieur de nos murs en santé publique, en Estrie. Mm-hmm. Et puis là, donc, j'ai 63 collègues qui ont fait l'infection. Puis là-dedans, il y en a des jeunes qui nous racontent que 3 mois après, ben la fin de semaine, ils font plus du sport comme ils faisaient avant, ils restent essoufflés. Ou ils ont perdu le goût, l'odorat, ils sont pas capables de prendre une bière, ça les fait vomir. Ils sont fatigués, ils sont obligés de faire des siestes. Quand t'as moins de 30 ans, puis normalement, t'es guilleret, puis envoie le sport la fin de semaine, t'es comme ça. Ben ça, il faut, ça peut sensibiliser, parce qu'évidemment, on dit, ah, ben, c'est que des personnes qui étaient déjà très malades,
c'est pas le cas.
Qui sont décédées, ben là, c'est pas ça, là. C'est des jeunes en parfaite santé qui gardent des séquelles de virus. Ça fait que c'est pas le petit rhume de l'hiver que ce coronavirus. Alors, ça, c'en est un exemple de témoignage. Vous êtes bien placé pour recevoir des gens qui peuvent témoigner que, ben, 3 mois après le virus, là, je suis pas revenu parfait, là. Je suis pas revenu. Donc, il y a des... C'est jamais comme mourir ou évidemment, c'est l'ultime. Mais toutes les autres petites séquelles, il faut en parler aussi. Les témoignages et les histoires des gens, c'est à la limite plus touchant qu'un vieux comme moi qui raconte des statistiques.
Merci, Alain. Je me sens comme impliqué dans votre commentaire.
Ben, on se parle de la même génération.
Oui, on est entre nous seulement. Il n'y a personne qui nous écoute, c'est connu. Merci beaucoup, Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, de nous avoir expliqué qu'est-ce qui en était. Et merci de ne pas être en vacances.
D'accord.
Bye-bye.
Ça fait plaisir, au revoir.
Au revoir. On s'arrête pour une pause et je reviens avec le commentaire de Lise Ravary.